simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Alors aujourd'hui, nous allons parler, on va parler d'un procès qui a eu lieu. C'est le procès de Deliveroo et c'était pour travail dissimulé. Mais on va en parler avec notre invité qui va se présenter.
Bonjour, Hicham Aktouche, secrétaire du syndicat Sud Commerce et Services Île-de-France qui s'est longtemps battu pour défendre les droits des salariés de l'Ubérisation et de Deliveroo en particulier.
Alors pour se mettre un peu dans l'ambiance, on va diffuser un reportage que nous avons trouvé sur Internet et qui parle justement, c'est un ex-salarié de Deliveroo qui parle de ses conditions de travail.
Je m'appelle Nassim, j'ai 35 ans, j'ai 4 enfants, je suis père de famille. J'ai commencé Deliveroo il y a un peu moins d'un an. Donc au départ, tout se passait bien, enfin en gros, ça se passait bien parce que je me rendais compte rapidement que c'était pas de l'indépendance que je faisais, mais plutôt d'être un salarié. Puisque j'avais l'obligation, on a l'obligation de travailler le vendredi, samedi, dimanche. Sinon, bah, vous n'avez pas priorité sur les créneaux, vous vous retrouvez avec 2 heures ou 3 heures par semaine de travail. Donc vous avez l'obligation de travailler presque tous les jours. Sinon, vous avez le système de stab qui vous tombe dessus et donc vous ne pouvez pas travailler tous les jours ou faire un minimum de 35 voire 40 heures. Donc je me retrouvais à travailler tous les jours, à faire entre 50 voire 55 heures par semaine. Pour en moyenne, on va dire 15 à 17 euros brut. Ça, c'était il y a un an. Le 31 juillet, on reçoit un mail pour nous expliquer que demain, le lendemain, il n'y aura plus de tarif minimum. Parce qu'en sachant qu'on avait une tarification minimum qui était en moyenne entre 4,60 et 4,80 sur la région parisienne. Et là, on nous annonce qu'il n'y a plus de tarification minimum. Donc, vous avez des courses à 2 euros, 2,50 euros, voire 3 euros. Ce qui fait que pour 3 euros ou 2,50 euros, vous recevez une commande, vous allez sur le restaurant, vous attendez 10 voire 15 minutes, vous allez livrer votre commande qui vous prend, on va dire 5 minutes parce qu'elle est à côté, c'est une petite course. Vous attendez le client 5 minutes, donc ce qui fait 20 minutes, quoi, 20-25 minutes. Donc en 20-25 minutes, vous pouvez faire 2 voire 3 commandes par heure. Donc vous multipliez, c'est simple, hein, 3 x 3 ça fait 9, ça fait du 9 euros brut. Vous enlevez les 25% d'URSSAF et les 5% de charges que vous avez diverses sur votre moyen de locomotion, votre moyen de transport, donc vous vous retrouvez à presque la moitié du SMIC. Donc voilà, c'est les nouvelles conditions depuis le 31 juillet. Donc nous, il était hors de question qu'on travaille sous ces conditions-là. Donc on a décidé de monter un mouvement. Donc on s'est concerté entre plusieurs livreurs de la région parisienne. On a monté des groupes WhatsApp et des groupes Facebook pour organiser des manifestations. Donc on sensibilisait les différents livreurs qu'il y a sur la région parisienne pour leur expliquer de refuser les commandes. Qu'il était hors de question de travailler comme ça parce que si on accepte cette tarification, dans un an on va travailler pour 1 euro. Mais vraiment on va travailler pour 1 euro parce que les prix sont toujours à la baisse. Donc ils nous ont prétexté qu'ils avaient concerté certains livreurs et qu'il y aurait une augmentation des longues distances. Ce qui n'était pas le cas. Il n'y a eu aucune augmentation des longues distances. Les longues distances, ils ont rajouté 20 à 30 centimes les 2 premiers jours seulement. Ensuite, j'ai des screens, j'ai des captures d'images. Les preuves, elles sont là. Les longues et les petites ont diminué. Donc, en fait, ça a été une baisse générale de la tarification des courses. Donc, on a monté, on a sensibilisé les livreurs. Donc, ça n'a pas été difficile. Hein. Aucun livreur n'est content. Aucun livreur sur la région parisienne n'est content de la nouvelle tarification. Même les petits miséreux ou personnes sans papier, malheureusement, qui doivent travailler, qui travaillent pour Deliveroo, que Deliveroo est au courant qu'ils ne sont pas régularisés, ils n'étaient pas contents. Mais ils le font parce qu'ils n'ont pas les mêmes dépenses que nous. Ils ont pas le même, ils sont pas dans la même situation que nous. Ils vivent la misère, donc ils travaillent même pour un euro. Et c'est Deliveroo, c'est ces livreurs-là, c'est la nouvelle flotte de Deliveroo, ces livreurs-là. Donc on a refusé, on a sensibilisé les personnes. Donc on a décidé de certaines dates et certaines heures. Et on manifestait devant les gros restaurants. Moi, en l'occurrence, j'étais sur la zone de Courbevoie. En sachant que sur la zone de Courbevoie, il y a ce qu'on appelle les éditions de Deliveroo. C'est un endroit où une quinzaine, voire une vingtaine de restaurants sont répertoriés. Et c'est des restaurants qui sont mis en valeur par Deliveroo. Les locaux sont loués par Deliveroo. En fait, ça appartient à Deliveroo. Et c'est que des commandes pour Deliveroo qui sortent. En moyenne, vous avez, je ne sais pas moi, à la minute, vous avez 10 commandes qui sortent à la minute sur une journée complète de 11h30 à 22h30. Donc on a décidé de manifester devant ces locaux-là. J'ai été un des organisateurs. On a décidé de manifester devant ces locaux-là en expliquant aux différents livreurs qu'il fallait refuser les commandes. Donc ça a fait un effet de masse. Tout le monde s'est rallié à notre cause. Donc ce qui a fait que Deliveroo a fermé leurs locaux parce qu'ils voyaient que les commandes n'étaient pas récupérées. Donc pour éviter que les commandes soient jetées à la poubelle et qu'il y ait des pertes, ils ont décidé de fermer les locaux. Ça a duré, ça c'était une soirée, mais en même temps, il y avait une deuxième cuisine. Ils en ont deux dans la France, sur toute la France. Il y en a une à Saint-Ouen et il y a celle de Courbevoie. Donc celle de Saint-Ouen était simultanément bloquée, enfin bloquée, elle n'était pas bloquée, mais il y avait des livreurs qui manifestaient, qui refusaient les commandes, donc Saint-Ouen a aussi fermé. Et il y avait les grosses enseignes comme Burger King, toutes ces grosses enseignes, où il y avait des manifestants qui refusaient les commandes. Donc il y avait un gros manque à gagner sur plusieurs soirées de Deliveroo. Donc ça, c'est en gros la situation dans laquelle on était le 3 septembre. Je reçois une lettre de résiliation de mon contrat. Donc sans motif, bon, elle est diffusée largement sur les réseaux, sans motif pour m'expliquer que Deliveroo décide de résilier mon contrat, sans aucun motif. Donc ça, je le reçois par courrier électronique, par mail, sans de coup de téléphone auparavant, sans de mail auparavant, sans rien en amont. Donc je reçois ça, donc forcément je suis étonné, je suis choqué. J'envoie la minute d'après un mail pour demander une justification, une explication. Pourquoi mon contrat est résilié? Quel est le motif? Quelle est la cause? Aucune réponse. Aucune réponse. Ni, pourtant ils ont l'habitude de répondre avec des robots, ni réponse par mail, ni réponse téléphonique. Donc j'ai contacté un avocat qui est Maître Mention, qui s'occupe un peu de toutes ces plateformes-là. Et j'ai contacté aussi Jérôme Pimaud, qui est un des fondateurs du CLAP, qui est un collectif de syndicats des livreurs, auto-entrepreneurs. Donc j'ai eu quelques appels de certains journalistes. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait en même temps, ils ont contacté des responsables, des chargés de communication de Deliveroo. Donc eux ont une réponse sur ma soi-disant, sur la cause de la résiliation de mon contrat. Donc selon eux, en gros, hein, je suis un voleur ou j'utilisais frauduleusement l'application. En sachant que la résiliation, je l'ai avec 21 jours de préavis. Donc moi, demain, j'ai une société, j'ai un voleur dans ma société, mais je lui donne 21 jours, 3 semaines de plus pour lui permettre de voler. Mais je ne le préviens pas avant, je ne lui montre aucune preuve. Donc si Deliveroo était vraiment véridique, ils auraient entamé des poursuites contre moi. Maintenant, si je vous parle des conditions de travail de Deliveroo, elles sont catastrophiques parce qu'il n'y a aucune indépendance. C'est vraiment du salariat déguisé. Mais vraiment, c'est... Et encore, hein, je suis chauffeur poids lourd de base, j'étais en CDI. Je suis rentré chez Deliveroo pour la flexibilité, entre guillemets, de leur système, alors qu'il n'y a aucune flexibilité puisque vous avez l'obligation de travailler certains jours et certaines heures. Si vous ne travaillez pas ces jours-là, vous vous retrouvez avec 2 heures de travail. Donc on ne peut pas vivre avec 2 heures de travail. Moi, c'était un temps plein. Donc du jour au lendemain, je me retrouve résilié, sans chômage derrière, sans aucune cotisation sociale, donc j'ai rien du tout. Donc je me retrouve à 0 € du jour au lendemain. Donc voilà ce que c'est Deliveroo. Donc pour eux, on n'est qu'un numéro. On vous jette et derrière, c'est pas grave, on trouvera un autre numéro qui travaillera sous les nouvelles conditions. Et on va faire en sorte de choisir une personne. Bon, s'il a les papiers ou pas les papiers, c'est pas grave, tant qu'il accepte nos conditions tarifaires, dans un an sûrement, à 1 € la course. Donc voilà, en gros, c'est ce qui s'est passé.
par rapport au statut d'auto-entrepreneur, ça implique quoi ça sur vos conditions de travail, sur le temps de travail, etc. des livreurs ?
En tant qu'auto-entrepreneur, c'est que si tu travailles pas, t'es pas payé. T'es malade, tu vas arriver en retard sur ton créneau, tes statistiques vont baisser, tu te retrouveras la semaine d'après avec 2 heures de travail. Donc t'as été malade, tu seras pas payé sur ton temps de maladie, mais en plus, sur les 2 semaines consécutives, voire plus, tu ne travailleras pas. C'est l'horreur, quoi. C'est un cauchemar, c'est un cercle vicieux qui t'oblige à travailler coûte que coûte et en acceptant obligatoirement leurs conditions à eux. Donc je suis un indépendant, mais je ne peux pas fixer mes tarifs, je ne peux pas choisir quand travailler, je ne peux pas choisir quand m'arrêter et en plus, je ne peux pas partir en vacances parce que vous n'avez pas la possibilité de partir en vacances chez Deliveroo. Car si vous loupez 1 semaine de vacances, quand vous reviendrez de vacances, eh ben vous serez à 17 heures dans la réservation de créneau, ce qui implique que vous aurez 2-3 heures par semaine. Donc vous revenez de vacances et vous avez 2-3 heures par semaine. 2-3 heures par semaine, il n'y a personne qui peut vivre avec 3 heures, on va dire 3 fois 10, qui peut vivre avec 30 euros par semaine. Il n'y a personne. Même une personne qui est célibataire ou même un étudiant.
Et vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes sur antenne de Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Et nous sommes en studio en compagnie d'Hichem, donc, qui est Sud Commerce et Services, Paris.
Île-de-France.
Île-de-France, précisons d'ailleurs, Île-de-France, tout à fait. Alors voilà, donc on a diffusé ce reportage, parce que je pense que c'était intéressant de poser un petit peu le cadre des salariés. Salariés, c'est toujours... On ne sait pas trop, il y a toujours une espèce de zone grise. C'est vrai
on peut dire les livreurs.
Livreurs, tout à fait, livreurs. Et peut-être pour commencer, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse un peu un état des lieux de Deliveroo.
Oui.
Hein, parce que on connaît, hein, quand on se promène ou quand on prend les transports, on voit toujours ces hommes, plutôt des hommes d'ailleurs, très peu de femmes hein, d'ailleurs, plutôt beaucoup de ces livreurs. Avec des sacs sur le dos, en vélo, même des fois dans les trains, même des fois parfois à pied aussi. Donc il y a une palette un peu de livreurs. Deliveroo, ça existe déjà depuis quand ? C'est arrivé en France à peu près depuis quand, ça, Deliveroo ?
2014, peut-être 2015, qu'ils se sont vraiment installés.
D'accord.
Voilà, c'est venu petit à petit au départ. Hein. C'est monté comme ce genre de société, ça monte par le bouche à oreille petit à petit.
D'accord.
Voilà.
Je pense que ça serait bien de faire cet état des lieux. Comment ça a prospéré un petit peu Deliveroo, comme les autres hein, d'ailleurs, parce qu'on parle de Deliveroo, mais c'est aussi valable pour les autres.
Hein. Ce qui est bien, c'est que ça a évolué petit à petit, notamment grâce au rapport de force qui s'est installé petit à petit lorsque les livreurs se sont aussi structurés, que ce soit via le CLAP, via les syndicats, ils se sont structurés et c'est ce qui leur a permis aussi d'avoir un rapport de force qui soit légèrement différent. On avait au départ une plateforme qui, comme Uber, avait été pleine de promesses. Voilà. Vous allez voir, c'est la liberté, vous allez vous faire beaucoup d'argent, c'est ce qu'ils disent toujours encore. Vous allez voir, on en a qui peuvent faire 3000 euros. Oui, mais à quel prix ? Dans quelles conditions ? Dans des conditions qui sont assez dangereuses déjà, parce que pour les faire, il faut quand même se mettre en danger sur la route. Il y a des conditions qui sont très difficiles au niveau du travail. Et évidemment que le fait de pouvoir travailler aussi a un coût. C'est bête, mais des livreurs aujourd'hui, ils doivent investir dans leur propre matériel. Là où les sociétés de livraison, par exemple, j'ai travaillé chez Pizza Hut. On connaît ce genre de sociétés, donc les Pizza Hut, les Domino's Pizza et autres. Ils vous fournissaient un matériel. Vous aviez quelque part une sorte de formation, mais surtout, vous aviez une responsabilité de l'employeur. Et comme l'employeur devait assumer ce qui se passait en cas d'accident de travail, on avait quand même des équipements assez solides. On avait quelque chose qui était mis. Là, des salariés, enfin des gens qui sont précaires, vont risquer d'acheter un matériel qui va peut-être pas forcément être de très bonne qualité au départ parce qu'ils n'auront pas les moyens d'investir dans le bon matériel. Je ne vous parle même pas de tous les accidents qu'il peut y avoir. Les accidents qu'il peut y avoir, on a vu des conséquences parfois dramatiques. Il y a eu des morts. Et je ne vous parle pas du nombre d'accidents. Quand un livreur est accidenté, contrairement à un employeur qui va faire les démarches pour qu'il puisse avoir droit à un maintien de salaire en accident de travail ou même à un arrêt maladie, là, non, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont absolument rien.
Majoritairement, qui travaille pour Deliveroo ? Est-ce qu'on arrive un peu à quantifier ça ?
Alors, c'est difficile d'avoir des stats exactes parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'emprunts de comptes, de locations de comptes.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de salariés, de livreurs étrangers qui vont louer le compte d'une personne qui, elle, a le droit de travailler et en lui redonnant une partie de ce qu'elle gagne.
Et ça implique des sans-papiers, ça implique...
Exactement, c'est eux qui sont concernés. Eux qui vont louer le compte d'une personne qui, elle, a les papiers pour travailler, mais qui, du coup, doivent reverser une partie de cette somme.
D'ailleurs, ça me fait penser, on avait croisé dans une manifestation des livreurs de Frishti, notamment, qui étaient dans cette situation-là, quoi.
Sans doute. Ouais. C'est le milieu, en fait, fait que c'est facile d'accès, qui peuvent travailler sous ce régime-là. La location de compte a un coût, et déjà que les salaires ne sont pas mirobolants, puisque on le sait, on l'a même entendu dans le reportage, et les conditions financières, les conditions de travail sont déjà difficiles, mais si en plus vous devez payer une location à quelqu'un, ça devient encore plus impossible.
Il y a aussi la question du suivi des livreurs aussi. Alors, bien sûr, évidemment, ils sont pistés, il y a l'histoire des algorithmes. Comment ça s'organise un petit peu tout ça ?
Comment ça s'organise ?
C'est-à-dire, pour que Deliveroo puisse savoir où se trouvent ces livreurs, comment ça s'organise ?
Ah, mais vous êtes géolocalisé en permanence. Mmh. Et un des arguments aussi qui a porté devant l'inspection, devant le tribunal judiciaire, le tribunal correctionnel, c'était le fait que là, on vous donnait carrément le chemin à prendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une relation avec un auto-entrepreneur à qui vous dites « je te délègue la responsabilité d'utiliser tous les moyens à ta disposition pour remplir cette mission ». Là, on te dit exactement comment tu dois la remplir cette mission. Tu dois passer par telle rue, tu dois être là de telle heure à telle heure, tu dois faire ci, tu dois faire ça de cette manière-là. Mmh. Voilà. Et cette géolocalisation, elle était appliquée et de manière en plus extrêmement abusive, surtout les premières années. Puisqu'on pouvait savoir en permanence où ils étaient, ce qu'ils faisaient, et qu'il y avait même des menaces. Les fameux « vous ne faites pas les petits malins, on sait où vous êtes, on sait ce que vous faites ». Parce qu'il y avait quand même des impératifs de connexion. On parle de liberté, mais sauf que si la liberté de travailler de telle heure à telle heure, on nous la vend dans les pubs, en vrai, non. Puisque si vous ne travaillez pas, par exemple, les week-ends, vous êtes plus ou moins sanctionné, puisque d'autres vont vous prendre votre plage horaire. Tout est fait pour vous dire... Il y a une liberté, mais dans les faits, on vous dit « tout le monde peut vous piquer votre place, donc battez-vous pour la garder ». Vous voyez un peu ?
Oui, c'est un peu la lutte des uns contre les autres. Quoi. C'est un grand classique, mais qu'on trouve aussi dans le salariat. Alors là, c'est vrai, on va dire que c'est développé un peu plus, puisqu'il y a tous ces moyens de géolocalisation. Donc on va dire que c'est peut-être même paradoxalement un peu plus facile que dans une entreprise. Parce que dans une entreprise, je pense qu'on pouvait toujours un petit peu se dire on se débrouille, on se remplace et tout ça. Là, du coup, on ne peut pas se remplacer. Là, on est vraiment sur un truc très, très fixé, quoi.
Mais tout était fait par Deliveroo pour que les livreurs ne se rencontrent pas, ne discutent pas, ne s'organisent pas. Tout était fait pour ça. Mmh. Et c'est important de souligner l'initiative de Barbara Gomez. C'est une élue au Conseil de Paris, une élue communiste qui s'est battue pour installer la maison des livreurs. Une maison dans le 18e où les livreurs peuvent se poser, peuvent discuter, peuvent s'organiser, où il y a des permanences syndicales, où ils peuvent se doucher, où ils peuvent manger, se reposer aussi à l'abri de la pluie. Ce genre de choses permet de pouvoir se rassembler, de pouvoir construire aussi un rapport de force. Mais tout était fait par Deliveroo pour que les livreurs ne se parlent pas et se considèrent entre eux comme des concurrents.
Ouais, ça c'est vraiment quelque chose d'assez important. Je pense que là on a fait le tour, donc on va passer sur le procès, si tu veux bien.
Bien sûr.
Alors donc, on a appris donc le 19 avril dernier que Deliveroo avait été condamné à 375 000 € d'amende pour travail dissimulé. Je pense que l'intitulé est important. Donc, il y a eu de différentes condamnations. Il y a eu, je crois, trois... donc, l'entreprise elle-même, donc trois ex-dirigeants, donc Hugues de Cosse, Adrien Falcon, et sont condamnés à 12 mois de prison avec sursis et 5 ans avec sursis d'interdiction de diriger une société. Il y a aussi des amendes.
Il y a aussi Élie de Moustier.
D'accord. OK.
Oui, le troisième dirigeant.
Tout à fait. Il y a eu aussi les condamnations avec amende qui allaient de 27 000 € à verser à l'URSSAF. Voilà, c'est les deux directeurs généraux qui ont cope de ces amendes-là. Comment s'est monté un peu le déroulé du procès et la défense ?
Alors, je voudrais juste souligner aussi une autre condamnation qui les touchait et qui a un vrai impact, je pense, on va en parler sur la suite. C'est que ces trois personnes-là ont également été condamnées à 12 mois de prison avec sursis et surtout, ce qui nous plaît, 5 ans avec sursis d'interdiction de gérer une entreprise.
Tout à fait.
Et ça, c'est important. Mmh. Parce que pour ces gens-là, les priver de gérer une entreprise, là, il y a un aspect dissuasif.
Ouais.
Là, il y a quelque chose où ils peuvent se dire « Non, il vaut mieux pas que je me lance là-dedans. Mmh. » Et eux, évidemment, ils ont pris. Mais les prochains, ça les fera réfléchir. Mmh. Les prochains à qui on va dire « Ça t'intéresserait d'être mon DG et de mettre en place ce système ?» Ah ouais, non, c'est compliqué parce que si derrière, je me retrouve sans pouvoir bosser pendant 5 ans, ça va être compliqué.
Mmh.
Donc, ça fait réfléchir parce que là, il y a des condamnations individuelles sur ces personnes-là et pas sur une structure qui peut disparaître. Pas sur une structure comme Deliveroo qui va être condamnée aujourd'hui et qui demain peut laisser sa place à quelqu'un d'autre. Voilà, là, en fait, on a vraiment une personne physique qui va être condamnée. Et c'est ces personnes-là physiques qui mettent en place ce genre de système. Mmh. Ces personnes-là qu'il faut dissuader.
Alors, en même temps, j'entends ton commentaire par rapport à la question des personnes physiquement qui sont incriminées. Et effectivement, la question d'être interdit de gérer une entreprise est presque même plus intéressante que les 12 mois avec sursis, en ce qui nous concerne. En tout cas, c'est certain que c'est comme ça qu'on pense dans cette émission. Mais ensuite, je me pose quand même la question par rapport à ta remarque, car effectivement, donc ces personnes-là sont incriminées, mais en attendant, mettre en avant la responsabilité d'une entreprise et faire en sorte qu'une entreprise elle-même aussi ait apporté la responsabilité, ça met aussi à mal, en fait, des constructions. Tout simplement de ce type de plateforme. Et aussi bien que, et c'est là qu'on s'y perd un peu, aussi bien si Deliveroo tombait, et ben les mêmes personnes pourraient construire autre chose, et donc j'entends ta remarque. En même temps, à chaque fois qu'on individualise la faute, et ben il suffit de mettre quelqu'un d'autre, et puis ensuite l'entreprise, elle peut avancer aussi. Donc c'est quelque chose qui va un peu dans les deux sens. Et résultat, je sais pas trop, moi, comment je le prends. Tu vois cette nouvelle?
Exactement ce que tu dis, c'est que quand tu dis « bah c'est pas grave, on fait sauter le fusible et on en met un autre », oui, mais qui va accepter, parce que ces personnes-là qui sont surdiplômées, qui gagnent beaucoup d'argent, parce que ce sont les DG, ce sont eux qui sont aux commandes, ces personnes-là ne mettront pas en danger leur carrière pour aller sur ce système-là. Ils vont prendre une autre offre où ils gagneront peut-être un peu moins, mais ils vont pas mettre en danger le fait de rester 5 ans sans pouvoir gérer une entreprise. Après, ces deux condamnations-là, elles sont complémentaires. Ce qui m'embête, c'est que Deliveroo prend l'amende maximale qui est à 375 000 euros. Ok, c'est le maximal, mais c'est peu par rapport à tout ce qu'ils gagnent. C'est très peu.
Oui.
Voilà. C'est dommage parce que ça nous limite. Maintenant, il y a autre chose. On va en parler peut-être un petit peu après, mais dans la suite, évidemment que le tribunal a reconnu déjà qu'il y a des sommes qui sont versées aux livreurs qui sont concernés en tant que partie civile. Il y a des sommes qui leur sont allouées à titre de provision. Et une audience est prévue dans un an pour établir combien elle doit leur donner individuellement. Parce que là, c'était une provision. C'est-à-dire qu'on se dit, a priori, ils ont vraiment déconné la boîte. Donc, il y a des sommes qu'on va leur donner déjà en attendant parce qu'on sait que les personnes vont être condamnées. Donc, on leur donne déjà presque une avance, presque un acompte sur ce qu'ils vont toucher après. Et l'audience est déjà prévue pour l'année prochaine.
Comment le procès il s'est monté? Comment il arrive?
Par l'inspection du travail.
D'accord, c'est-à-dire tu peux développer.
Une inspectrice du travail qui ne lâche rien et qui va se battre malgré pas mal de pression, malgré le fait qu'elle va être accusée, notamment pendant tout le procès, de tout simplement avoir un parti pris, d'aller au-delà de son simple travail et d'être plus une militante qu'une inspectrice. Tout a été fait pour montrer un parti pris de l'inspection.
D'accord.
Voilà. Cette audience, lors de cette audience, en fait, voilà, elle s'est battue. Ce qui est bien, c'est que pendant toute l'audience, on a senti que les pouvoirs publics avaient accompagné. On ne sait pas si ça a été le cas tout le long de la procédure. Mmh. Ce qu'on peut vous dire, en tout cas, c'est que lors de l'audience, la procureure et la juge ont été quand même ont eu un positionnement assez ferme par rapport à Deliveroo. Mmh. Voilà. Là, on était quand même dans une audience qui n'était pas ce que nous, on a l'habitude de voir, donc du prud'homal, du civil. Voilà. Là, on avait affaire à du pénal, avec des interrogatoires, contre-interrogatoires. Ça a un vrai côté impressionnant et intimidant, je pense, pour ces personnes-là, parce que dans la salle, il y avait quand même une effervescence continuelle.
Mmh. Et du coup, les livreurs, comment eux, parce que je pense que l'avocate, certes, mais les livreurs aussi, comment eux, ils se sont positionnés? Comment ils ont amené ce procès?
En tant que partie civile.
Mmh.
En tant que partie civile, en fait, notamment grâce au CLAP.
Mmh.
Le CLAP en a apporté beaucoup. Les livreurs, il y en avait une centaine qui étaient partie civile.
Mmh.
Et alors que sur la période concernée, parce que la période concernée, là, on n'attaquait pas tout ce qui s'était passé chez Deliveroo depuis la création. Il y avait seulement une petite partie, parce qu'on est dans le cadre d'un procès pénal, et que les faits sont circonscrits à une période.
D'accord.
Et ce qui est normal, puisque sinon, l'entreprise peut dire « oui, mais entre-temps, ça a évolué. C'est plus exactement la même chose qu'au départ. » Donc là, on est sur une période qui était circonscrite aux faits qui datent de mars 2015 à décembre 2017.
D'accord.
Voilà. Ça, c'est la période des faits. Et évidemment que Deliveroo a tenté, lors de l'audience, de ramener cette période, évidemment, à une période encore plus resserrée, voilà, pour diminuer aussi le nombre de preuves, puisqu'on prend une preuve qui va dater de mars 2015, une preuve qui va dater de décembre 2015. Si on peut circonscrire, on élimine aussi de facto ces preuves.
Mmh.
Voilà. Évidemment, alors, une des choses amusantes, c'est qu'on parle beaucoup du préjudice principal des livreurs, qui était notamment le fait de ne pas avoir droit à une vraie indemnisation en cas d'accident, en cas d'arrêt maladie. Et l'employeur, enfin Deliveroo, a osé dire « Non, mais entre-temps, ça a changé, on leur a pris une mutuelle.
»
Maintenant, une mutuelle qui fait en sorte que même en cas d'accident grave, le maximum est de 50 euros par jour pendant 30 jours. 30 jours maximum. Vous appelez ça une mutuelle ? Vous appelez ça une assurance ? Vous appelez ça comment ? C'est une aumône. Surtout lors d'un accident qui a des conséquences parfois dramatiques. Je suis désolé, vous prenez un accident de deux roues à Paris. Si vous vous en remettez en moins d'un mois, quand même, il y a eu dopage.
Mmh. Ouais.
Non, mais...
Comme le Tour de France, quoi. Ça peut...
Non, mais les dégâts, souvent, sont quand même énormes.
Mmh.
Et sans même parler des dégâts matériels, parce que de toute façon, en plus d'avoir besoin de vous remettre, vous devez aussi repayer, réparer le matériel que vous avez eu.
Ouais, c'est pour c'est à tes frais, quoi. C'est tout le matériel. Ouais.
C'est le but de Deliveroo. Ils se déchargent de tout. Ils se déchargent de tout. Ils ne veulent assumer aucune responsabilité, ni envers les salariés, ni envers le matériel, ni envers toutes les conséquences que leur activité peut avoir sur leur santé.
Ouais, ça, c'est quelque chose qui est vraiment toujours assez, assez important. Alors, rappelez aussi quand même qu'il y a eu aussi des mobilisations de livreurs. Il y a eu beaucoup de manifestations de livreurs, pas seulement à Paris d'ailleurs, mais dans beaucoup de coins de France et aussi en Europe. Il y a une organisation qui se lève, qui est assez intéressante. Est-ce que ça, du coup, c'est pour le procès, est-ce que ça, du coup, ça a pesé aussi ?
Ça sert à démontrer une chose. On nous dit que ce sont des contrats commerciaux entre un prestataire commercial et une entreprise. Ok, moi j'embauche quelqu'un pour qu'il fasse une tâche. C'est pas en plein milieu de la relation de travail que je vais lui dire « Au fait, tu te rappelles le mur que je t'avais embauché là, pour me faire, où je devais te payer 5 000 euros ? Bon, finalement, on va changer, je vais te le payer à 2 000 euros. » On change ça en plein milieu de la relation de travail. Donc pour Deliveroo, on a, pour Deliveroo, comme c'est valable pour d'autres boîtes,
oui,
on a des salariés qui vont investir, qui vont acheter un scooter, qui vont acheter du matériel. Parce que la livraison à vélo, non, ça ne marche pas, ce n'est pas rentable. Mmh. On l'a vu.
Ouais.
On a des salariés qui vont investir dans un matériel et qui ensuite, très vite, vont voir une entreprise revenir sur ce qu'on leur a promis, sur les engagements. Non, finalement, on va te payer moins. Ah non, mais tu n'as pas ton mot à dire. Est-ce que pour vous, ça correspond à une relation d'égal à égal entre un prestataire, une entreprise, entre un client et une entreprise? Non, il n'y a pas de vraie négociation. Il y a zéro négociation. Il y a une soumission complète que veut Deliveroo. C'est ce qu'on entendait aussi dans le reportage. Quand il dit, mais c'est même pas du salariat. Voilà, non, c'est de la soumission que veut Deliveroo. Ils font tout pour qu'il n'y ait absolument pas de prise de conscience collective, qu'il n'y ait absolument pas tout ça. Et pourtant, cette conscience collective, c'est celle qui a permis aujourd'hui d'avoir une première grande victoire.
Alors, dans l'intitulé, c'est « Travail dissimulé ». Donc, comment on en arrive à travail dissimulé ?
Il s'agissait de reconnaître...
Qu'est-ce qui a été retenu, justement, pour qu'on en arrive à travail dissimulé ?
Alors, il s'agissait de démontrer que les contrats qu'il y avait, les contrats d'autres entrepreneurs, ne correspondaient pas à la réalité des faits. Est-ce que l'on avait une relation de travail comme celle qu'il y a entre un salarié et un employeur ? Est-ce qu'on avait ce type de relation ou on avait une relation entre un prestataire et un payeur ? Bien, écoutez... À partir du moment où on a des consignes, à partir du moment où on a un uniforme, à partir du moment où on a une géolocalisation constante, à partir du moment où on a même des demandes aux restaurateurs de dénoncer tout port de casque à l'intérieur des restaurants ou l'absence de port de l'uniforme, à partir du moment où on avait toutes ces consignes, toute cette surveillance, on avait même des demandes de congés à faire valider. Je ne sais pas si vous imaginez un peu.
D'accord.
Donc, ouais. Vous allez me dire qu'un prestataire doit faire valider ses congés quand il veut partir ? On avait des sanctions pécuniaires. On avait une obligation d'assister à une formation préalable. Mmh. J'embauche un maçon, je ne vais pas le former pour lui apprendre comment faire un mur. On avait un lien de subordination complet, des consignes précises à tous les stades de la livraison. On avait des horaires de travail quasiment imposés sur l'époque des faits, avec l'impossibilité pour les livreurs de travailler sans être inscrits sur une plage horaire dédiée, en tout cas validée par Deliveroo. Je ne sais pas si vous imaginez tout ça, ça a fait un lien. Les sanctions financières, mais vous n'imaginez, enfin, il y avait déjà des sanctions de base, c'est-à-dire que par exemple, on va vous interdire de travailler tel jour, comme une mise à pied.
D'accord.
Exactement pareil. Vous allez me dire que c'est un prestataire qui vous fait ça ?
Ouais.
Vous faites ça à un prestataire, vous ? Non, vous faites ça à un salarié. Vous faites ça à un salarié, et en plus, quand vous le faites à un salarié, vous pouvez rendre des comptes, puisque si le salarié peut contester la décision. Là, non, ils ne peuvent rien faire. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un sentiment aussi où vous devez tout subir. Là, c'est bien pour une fois d'avoir le vent qui tourne dans l'autre sens. Les sanctions pécuniaires, on est revenu, c'était la plaidoirie aussi de notre avocat, qui est revenu notamment même sur l'arrêt des sabots.
C'est-à-dire ?
Alors, l'arrêt des sabots, alors c'est très vieux, hein, ça date de 1860, à peu près, quelque chose comme ça, 1864. Donc, on avait une fabrique qui interdisait à ses salariés le port de sabots. Tout contrevenant à ce règlement intérieur devait payer une amende de 10 francs. Les salariés qui contestent vont au conseil de prud'homme, ça existait déjà, hein, plus de 150 ans à l'arrière, ça existait déjà, ouais. Vont au conseil de prud'homme, qui réduit l'amende, qui selon eux est d'une exagération évidente, c'est ça le terme, ils la réduisent à 50 centimes. La cour de cassation va dire qu'à partir du moment où un règlement intérieur existe, l'amende doit être appliquée. C'est-à-dire que le conseil de prud'homme n'a pas le droit de réduire la portée. La loi interdira 100 ans plus tard les sanctions financières. Et pourtant, Deliveroo y revient. Et c'est ça une société qui nous dit que c'est un nouvel avenir qui s'ouvre à nous ? Ça, c'est un peu comme Macron, le retour vers le futur. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'est l'avenir. Bah oui, on va s'imprégner de ce qui était dur dans le passé.
Oui, il y a une forme de, j'allais dire, une forme d'esclavage un peu moderne, quoi. Il y a un peu ça, quoi, dans ce qu'on voit aussi.
Toujours. Et c'était amusant aussi de voir même les témoins livreurs cités par Deliveroo qui n'ont même pas vraiment aidé l'entreprise. Même s'ils ont essayé. On en avait un, Pierre, qui était un peu un canoviste moderne, qui déclarait faire 70 heures par semaine pour Deliveroo. Ah, il s'est repris tout de suite. Non, pardon, je fais 70 heures par semaine avec Deliveroo. Je vais juste citer un dernier truc sur le procès, excusez-moi. Rapidement.
Vas-y.
Il y avait une autre intervention qui était intéressante parmi les syndicats qui intervenaient. Le syndicat patronal, qui était celui du syndicat national des transports légers, qui avait un autre angle d'attaque, qui était intéressant, celui de la concurrence déloyale et faussée envers les autres entreprises du secteur qui, elles, salarient effectivement du personnel. N'oublions pas que Take It Easy, par exemple, il me semble, embauchait en propre les salariés et a mis la clé sous la porte,
oui.
Parce que ce n'était pas assez rentable par rapport à Deliveroo. Donc, cette concurrence déloyale, en plus, elle a créé des licenciements. Donc, c'était bien d'avoir aussi cet angle d'attaque. C'était intéressant.
Eh bien, première pause musicale de cette émission.
Tant pis, assez joué. Vous n'en avez pas assez de vos épopées crapuleuses.
Même avec de grosses couilles en or à la fin de ce putain de scénar, c'est quelques brefs de comptoir qui rêvent de nous voir crever sous les poils. L'angle d'un de ces vieux trottoirs où l'information au noir du tristement célèbre notre organisation. Ma voix traîne dans des affaires louches. Si la plus vieille machine à désinformer du monde sortait de ma grande bouche, j'aurais des milliards en banque d'encombrantes fiches sur ces hommes de pouvoir dissimulés dans une bonne planque. Les juges sauront que je gruge comme eux, avec un âne pâté de paveux, histoire de soudoyer la partie civile au nez à la barbe de ce sénile procureur, lequel implore mon pardon devant ses femmes en pleurs. Putain, le verdict est sans appel, aucune preuve,
J'investirai avec la thune de ce procès dans des voitures neuves. À la terrasse de chez Edgar, c'est amusant de voir comment l'école blanc baisse du regard. Albert, dépêche-toi, comme d'hab. Sers-moi deux verres de la pisse d'âne que tu sers à tous ces crevards qui sont à ton rat. Chef, nous vivons une époque où la fringale du pouvoir défie la faim et la soif, titre le quotidien de la veille. Que je décortique sous l'œil éclairé de mon acolyte d'après ses sombres conseils. Bref, la fausse mornif ne rapporte plus, de toute façon qui l'eût cru. Quelques banquiers onéreux aujourd'hui en cabane, loin des parterres fleuris et généreux du boulevard Haussmann. En toute modestie, je fus cette ombre de la rue que chantait Edith Piaf. J'en suis revenu étrangement, les mains pleines de balafres en souvenir de ces années folles. À trop gratter le plancher avant de ramasser le pactole. D'une activité clandestine, nos rumeurs et spéculations nous ont conduits à la tête d'une formidable mine d'informations occultes et malhonnêtes. Le coffre-fort ne suivra pas le corbillard,
même avec de grosses couilles en or à la fin de ce putain de scénar. C'est quelques brefs de comptoir qui rêvent de nous voir crever sous les poux à l'angle, le teint de ces vieux trottoirs où l'information au noir tristement célèbre notre organisation. Classez-nous dans la pègre, chez les gros revendeurs de salades sans vinaigre, là où les ex-mecs ont pris du poids. Tu vois, petit, comment nos pages d'Hécatie les ont fait plonger, et qu'il ne leur reste même pas un os à ronger. Maths, c'est politique, sorti de tôle, rire jaune à mon passage. Et dans la pire faune, c'était la seule espèce à foutre en cage. Les rois du braconnage refourquent toujours, seuls les vrais sont restés pour assasier cette dalle de vautour. Et comme y avait pas grand chose dans la timbale, j'en ai vu tuer pour 25 balles. Et puis après, c'était les perdreaux qui rappiquaient sur un air de cymbale. Ils sifflaient la Marseillaise en décortiquant ton sobriquet. Ceux qui ont su se projeter plus loin que demain dans l'avenir t'avertissent du danger sur les coups à venir et te disent qu'il n'y a pas pire que ce qu'ils détiennent dans leur stock. Aucun rapport avec le doc refourgué par des délais doigts de fée. Ex-contrebandier d'alcool et de clopes, ce con toujours à changer de piole de peur qu'on le chope. Et puis ils comprennent pas comment on les tient par le collet. Politicard poulet, j'ai toutes les armes que tu voulais. J'ai toutes les armes que tu voulais. Le coffre-fort ne suivra pas le corbillard, même avec de grosses couilles en or à la fin de ce putain de scénar. C'est quelques brefs de comptoir qui rêvent de nous voir crever sous les poux à l'angle, le teint de ces vieux trottoirs où l'information au noir plus tristement célèbre notre organisation.
Poursuit cette émission en parlant du procès qui a eu lieu sur Deliveroo et sur la question du travail dissimulé. Il y avait dans les coursiers qui ont porté le procès, pas seulement que des Parisiens, aussi il y avait des gens de province. Notamment, il y avait un coursier de Bordeaux, je crois. Est-ce que du coup la mobilisation, comment s'est faite la mobilisation aussi en région sur ces questions-là? Parce que nous, on connaît à Paris, bien sûr, le CLAP et qui font un travail vraiment important. En région, comment ça s'organise aussi du coup?
Je pense que c'est surtout au CLAP qu'il faut poser la question, puisque on a travaillé pas mal au niveau de l'Île-de-France.
D'accord.
Donc nous, ce qu'on a fait par contre, c'est qu'on avait aussi financé des départs de certains des livreurs pour participer à des conférences, pour participer à des conférences ou des débats internationaux. Donc, on pouvait financer leur voyage.
Ouais, c'est populariser aussi ce procès aussi, quoi.
On prenait en charge. Non, mais là, je vous parle de ce qui se passait il y a encore 4-5 ans. Puisque nous, on a quand même tenté quelque chose à l'époque, en 2018. On a tenté de désigner un RSS dans la boîte.
Un RSS.
Un représentant de section syndicale. Donc, d'accord, comme un délégué syndical.
D'accord.
On a tenté de désigner un livreur comme étant RSS. Évidemment que ça n'avait pas tellement de chances de prospérer. C'était un coup politique. Mais c'était intéressant de le faire. Puisque aujourd'hui, quelque part, le procès nous donne raison, puisqu'il nous dit que la raison pour laquelle ce n'était pas possible à l'époque, c'est-à-dire, on nous dit, non, il n'est pas salarié, donc il ne peut pas représenter les livreurs, mais on nous dit qu'il y avait bien une fraude de l'entreprise et qu'ils auraient dû être salariés. Donc, ce mandat syndical, il aurait dû prospérer. Il aurait dû exister à l'époque, il aurait dû être validé.
D'accord.
Mais parfois, c'est en faisant des choses illégales que ça devient légal par la suite. C'est comme ça aussi que se conquiert beaucoup de choses.
Oui, c'est un peu un espèce de tour de passe-passe. Madeleine.
Alors pareil, moi je voulais demander, est-ce que au niveau de la, parce qu'on est revenu là-dessus finalement implicitement plusieurs fois, je me demandais, est-ce qu'il y a eu une revendication, une envie à travers l'organisation de la mobilisation, etc., de pousser à une internalisation, c'est-à-dire à dire nous en fait ce qu'on veut c'est être salarié de Deliveroo, ou est-ce que la démarche était seulement de dire nous ce qu'on veut c'est une vraie relation auto-entrepreneur et travail avec voilà, juste
la plupart des livreurs qui ont été quand même partie civile au procès, donc qui ont quand même eu une implication qui dépassait le cadre que l'on peut avoir dans une simple relation que l'on peut avoir un prestataire et une entreprise, ils se sont beaucoup impliqués, ils ont fait beaucoup de choses. La première demande, évidemment, était de dire on a subi un préjudice du fait que l'on n'était pas salarié. Que normalement, on aurait dû être salarié. Le cœur du débat, c'était ça. Il s'agissait pas de dire on aurait dû avoir plus comme de meilleures conditions de travail. Il s'agissait de dire c'est du salariat déguisé ce qu'on a vécu. Ceux qui acceptent des conditions où ils sont surveillés, sanctionnés, où ils ont des consignes strictes. Techniquement, ils ont eu un rôle de salarié sans avoir un employeur qui assume ses responsabilités. Donc oui, ils auraient certainement eu plus à gagner en étant salarié. Ça fait partie des demandes. Et c'est aussi pour ça que l'audience de l'an prochain va servir à établir quel préjudice, en tout cas, ils pourraient se voir être accordés.
Ok. Parce que justement, c'est aussi la question, c'est aussi comment est-ce que cette lutte, elle peut communiquer avec d'autres luttes sur la question du salariat et donc de la précarisation de ces modes aussi de salariat. Et évidemment, donc, est-ce que finalement, on ne devrait pas tous discuter ensemble, que ce soit même dans la question de la sous-traitance, etc., tout simplement de la diversité de ces statuts et du fait que tout simplement, en réalité, le statut d'auto-entrepreneur, eh bien, en fait, c'est un mauvais statut qui ne devrait pas exister tout court et qu'au fil de ces années a été sans cesse prouvé et reprouvé que, sauf pour une toute petite parcelle de l'auto-entrepreneuriat, ça ne servait qu'à la précarisation des conditions de travail et à une surexploitation au final.
Alors, je risque d'être un petit peu long. Déjà, il faudrait rappeler que là, tous les trois, on comprend assez bien ce qui s'est passé, les vrais enjeux de ce procès. Voilà. Mais je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui n'ont pas forcément bien compris que l'enjeu de ce procès n'était pas d'obtenir la requalification des salariés, parce que la première des questions qu'on a eues, c'était est-ce que maintenant ils sont reconnus comme salariés ? C'était la première question que les gens se posaient. Et il fallait expliquer non. Là, il ne s'agissait pas d'une audience au Conseil de Prud'homme qui est du coup l'instance qui pourrait requalifier ces contrats de travail, qui pourrait requalifier ces contrats commerciaux en contrats de travail. Là, il s'agissait de sanctionner une entreprise, de dire que le contrat d'auto-entrepreneur n'était pas du tout adapté, que ce n'était pas du tout comme ça que la relation fonctionnait, que c'était une manière juste de ne pas payer de cotisations sociales et d'assumer de responsabilités, que c'était juste une fraude. Il s'agissait de reconnaître ça, de reconnaître que l'employeur, là, on était dans le pénal. On sanctionnait une entreprise. L'intérêt des parties civiles, c'était assez secondaire dans cette audience. C'est pour ça qu'ils ont une autre audience qui est de facto enclenchée l'année prochaine, qui est la suite de celle-ci, quelque part. Maintenant, le fait d'avoir cette condamnation pour travail dissimulé fait qu'avec cet élément-là, la requalification a plus de chances de prospérer pour les salariés qui voudraient entamer ces démarches-là au Conseil de Prud'homme.
Ça pourrait faire jurisprudence ?
C'est pas exactement techniquement une jurisprudence, mais ça peut être une pièce en plus, un élément qui peut être décisif dans la prise de décision des conseillers prud'homaux qui ont parfois besoin de voir qu'ils seraient accompagnés par les tribunaux, par le pouvoir public. Mmh. Voilà. Après, les contrats d'auto-entrepreneurs, n'oublions pas qu'il y a aussi des personnes comme des graphistes, comme d'autres personnes comme ça, qui ont des compétences techniques, qui vont créer par exemple un site internet et où on peut comprendre que ce type de contrat existe. On aimerait que, si ça existe, il y ait davantage de responsabilités prises par les employeurs. Mais on peut comprendre que ce soit plus ou moins adapté. Vous payez un prestataire pour qu'il vous installe un site internet, comme vous payez quelqu'un qui vient vous construire un mur ou vous construire une maison. C'est-à-dire que vous en avez besoin pendant l'instant T.
mais le contrat aujourd'hui, quand la manière dont il est détourné pour ce genre d'entreprise, et surtout, encore une fois, qui abuse de précaires, qui abuse d'une vraie précarisation de personnes, là, il y a un détournement. Là, il y a quelque chose qu'il faut absolument sanctionner et quelque chose qu'il faut absolument combattre. Voilà. Tout à l'heure, tu disais, c'est une mode. Moi, aujourd'hui, il y a autre chose. Donc, je ne sais pas si on peut y passer tout de suite parce que c'est un peu... Voilà. Nous, aujourd'hui, au syndicat Sud Commerce et Services Île-de-France, on est très engagés auprès des salariés de ZAP France, de ZAP Quick Commerce. Alors, Quick Commerce, pour les Parisiens savent un peu de quoi il s'agit. Il s'agit de ces entreprises qui vous promettent de vous livrer à toute heure vos courses en moins de 15 minutes. Si on vous livre, en tout cas chez ZAP Quick Commerce, ils vous promettaient quelque chose, ils vous disaient, si on vous livre en 16 minutes ou plus, vos courses sont offertes et on vous redonne 5 euros. D'accord. Donc, c'est un nouveau modèle économique. Et c'est à toute heure, encore une fois, 3 heures du matin, vous voulez vos courses, en 15 minutes, ils doivent vous les donner. Pas être chez vous, vous les donner.
Ouais,
c'est-à-dire
propre,
que si vous tardez à descendre, hop, on enclenche le chrono. Et à chaque fois qu'une demande est faite, ça passe. Alors, le taux de remboursement sur les courses, sur les délais non respectés, était de plus de 80% au départ. Donc non, ce n'était pas un système rentable. C'est un système d'entreprise qui sert à lever des fonds. Sauf que pour lever des fonds, ils veulent rassurer en faisant semblant d'avoir des salariés en propre. En disant, vous voyez, on est pérenne, on s'engage sur la durée. Une fois qu'ils lèvent assez de fonds, ils disparaissent avec la caisse. Aujourd'hui, on a les salariés, on a plus de 130 salariés de ZAP Quick Commerce qui ont du jour au lendemain appris qu'ils perdaient leur boulot. Et que l'employeur a tenté de liquider via un PSE sans même...
Plan de sauvegarde de l'emploi. Hein.
Voilà. Ça porte très très mal son nom, ce truc, mais bon, ça sauvegarde aucun emploi du tout dans ce cas-là.
On est bien d'accord.
On se retrouve dans une situation où les salariés n'ont aucun recours et n'ont même pas eu d'élection représentant du personnel, alors qu'ils auraient dû, selon nous. C'est aussi pour ça qu'on les attaquait en justice. Et ils tentent juste de faire obtenir l'homologation par l'inspection du travail. Encore mieux, comme ils n'ont pas de représentant du personnel, ils ont tenté d'en désigner eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont tenté de dire, via quelqu'un qui va être un porte-parole autodésigné par la direction, est-ce que vous voulez valider ou pas ma liste de gens qui vont négocier le PSE ? Comme ça, vous allez voir, 6 mois de salaire, garanti. Il faut voter oui ou non sur une plateforme où tout le monde voit qui a voté quoi. Mais il n'y a même pas plusieurs listes qui peuvent se présenter. Vous validez ou pas la liste qui vous est présentée ? Et la vraie question qui est posée comme ça, qui est comprise par les salariés, c'est est-ce que vous voulez qu'il y ait des salariés qui négocient ou on laisse la direction négocier toute seule ? C'était comme ça que c'était présenté. Et évidemment, quand on a appris ça, on s'est engagé tout de suite là-dedans. On leur a fait un référé dans Honneur. On attend encore le délibéré qui tombe dans 6 jours. Pour dire, le PSE ne peut pas être homologué. L'inspection du travail a eu le courage, et c'est très rare quand même, de refuser l'homologation de ce PSE la première fois. Et a priori, il risque de refuser le deuxième qui va échouer là. Parce qu'il se range derrière les arguments aussi, parce qu'on a écrit à l'inspection du travail pour soumettre en tout cas nos arguments qu'on a soumis devant le juge, en expliquant, non, il n'y a pas eu d'organisation du personnel. Nous, on a désigné un délégué syndical. Ils n'ont jamais voulu négocier avec lui. Ils veulent négocier qu'avec le salarié qui est proche de la direction. On s'engage là-dessus. On se bat pour ce genre de lutte. Mais c'est une mauvaise évolution, puisque là, on essaye de faire croire c'est pérenne parce qu'il y a des salariés, alors qu'on va se barrer avec la caisse dès que possible. Et on pourrait, évidemment, l'argumentaire de la boîte, ça va être « Ah non, mais on a essayé, mais ça ne marche pas. » Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous, on sait que c'est faux. Vous savez comment ils torpillaient ces boîtes-là ? Parce que quand je vous dis un taux de remboursement plus de 80%, évidemment, tout de suite, on se dit « Mais c'est bizarre quand même pour une entreprise. Le but d'une entreprise, c'est d'être rentable. » Non, non. Le but, c'est d'exister. Le but, c'est de pouvoir dire « On a ouvert 5 magasins à Paris. On a ouvert des magasins à Milan, des magasins là. Investissez, c'est le moment. Ça pousse. » Et ensuite, on coupe. Dès qu'on peut, on coupe. On coupe, on se barre avec la caisse. Est-ce que vous imaginez que ces boîtes-là ne faisaient pas, par exemple, leurs courses chez un grossiste ou chez Métro ? Ils allaient chez Franprix. Ils se faisaient quasiment aucune marge. Donc, est-ce que ça avait une chance de prospérer ? Le fait de reproposer de l'argent à chaque fois qu'il y a une commande qui n'est pas livrée en moins de 15 minutes, déjà, ça ne marche pas. Mais là où c'est amusant, c'est qu'il y avait des clients qui comprenaient le système. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Comme il n'y a qu'un seul livreur la nuit. Qu'un seul livreur. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous êtes 3 ou 4 à commander en même temps?
Ah ouais.
Impossible. Et c'est ce qui est arrivé très souvent parce que les gens, ils se faisaient passer la petite astuce. Mmh. Et c'est le livreur qui se fait insulter aussi. Parce que derrière, il se fait sanctionner par sa hiérarchie et il se fait reprocher par les autres d'être en retard. Sauf que 4-5 commandes à livrer en même temps, avec toutes les courses que ça implique, voilà. Et je ne vous parle pas des conditions de travail. C'était sale. Ils étaient dans des dark stores, c'est-à-dire des lieux qui ne sont même pas propices au stockage alimentaire, avec des souris, des cafards, avec tout ça. Pas propre, pas nettoyé, pas de toilettes pour femmes, rien du tout. Tout ça dans des conditions assez dingues.
Alors justement, moi je vois bien comment est-ce que ton exemple il montre aussi que donc l'internalisation ou juste le salariat ne sera pas le vecteur de la sécurité en réalité et du respect des travailleurs par rapport à même juste cet exemple-là où les gens étaient donc salariés. Moi ce que je te demandais aussi c'est par rapport à justement vous, votre syndicat Sud Commerce, etc. Là il va y avoir un an et en fait justement la diversité des contrats et des modes de travail actuellement quand on cherche à monter des luttes en fait elles deviennent de plus en plus compliquées. C'est-à-dire qu'il faut qu'on devienne des techniciens nous-mêmes de la diversité des modes de contrat et de travail qu'on peut avoir avec chacun de nos différents employeurs. Et simplement, la question, c'est de se demander est-ce qu'en fait, nous, collectivement, on veut travailler sur des nouvelles formes de réglementation aussi qui correspondent à l'ensemble de cette diversité et donc avoir chacun un peu des petites cases ou est-ce qu'à un moment donné, on arrive aussi à tout simplement se mettre tous autour d'une table et à se dire non mais attendez, là en fait, on ne peut pas rentrer tout le temps dans tous les détails des différentes procédures puisque l'ensemble, en fait, concrètement, de ces stratégies n'a à voir qu'avec le fait, une fois de plus, de surexploiter des personnes extrêmement précaires, pendant que d'autres, effectivement, que les entreprises soient rentables ou pas, eux, dans tous les cas, font augmenter leur denier personnel ou la réputation de leur entreprise à travers des spéculations un peu finalement comme tu disais là. Et donc en fait on est même au-delà d'une question de rentabilité. Et comment est-ce que nous par rapport à toutes ces choses-là, parce que tu vois dans cette émission il y a des moments où on va avoir toutes les questions par rapport à la sous-traitance, toutes les luttes qui ont été menées par rapport à ça, la question effectivement des livreurs et de la diversité des plateformes. Et effectivement on se doit aussi de voir que l'ensemble des conditions de travail, même pour des gens qui sont en CDI actuellement, peuvent être absolument terribles, les différents accidents du travail, comment est-ce que ça se passe sur les plateformes logistiques, etc. Et on se demande aussi, nous, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas se faire avoir aussi quand on mène des luttes et se retrouver divisé chacun par rapport à nos secteurs d'activité et à nos modes de travail et en fait de se retrouver tous ensemble aussi autour d'une table. Et comme vous êtes un syndicat qui en même temps va travailler par corporation mais en même temps répond à un ensemble et s'organise ensemble, comment est-ce que ça se passe aussi au niveau du syndicat? Comment vous discutez en fait de comment être aussi syndicaliste et mener des luttes face à la diversité de ces nouvelles formes de travail finalement?
Ok, alors je suis juste en désaccord avec le tout début de ton intervention où tu me fais dire que en gros le salariat c'est pas forcément mieux que ces cas-là. Non, en fait, de toute façon le salariat est toujours mieux. Le salariat est toujours mieux parce que ça nous donne de meilleures bases pour se défendre et pour, en tout cas, acculer les employeurs devant leurs responsabilités et les forcer à les assumer. Voilà. Là, on a quelque chose qu'on peut faire. En tout cas, on a un arsenal, on a des choses. Évidemment qu'on perd toujours du terrain en termes de droit tant qu'on aura des gouvernements de droite successifs qui vont toujours nous faire revenir. Voilà. Je parle de gouvernements de droite successifs. Je n'ai pas trop connu de gouvernement de gauche sur ce point-là. On a toujours eu des reculs depuis qu'il y a un rapport de force qui est amoindri. Là, la réponse dans ce cas-là, moi je voulais juste parler d'une évolution qui n'était plus celle à travers l'ubérisation des employés jetables, mais au fait que l'on arrive aujourd'hui à un système d'entreprises jetables. C'est-à-dire qu'on a des entreprises créées pour l'occasion qui servent à escroquer les gens, donc tant les investisseurs, mais j'ai réussi quand même à bien dormir en pensant quand même aux sommes qu'ils perdaient, ça va, c'est pas ça qui m'empêche de dormir, mais surtout aussi aux salariés qui se font exploiter parce qu'on leur vend du rêve. Ces salariés-là, on leur a dit, quittez votre boîte, venez chez nous, vous allez voir la vraie évolution, vous allez voir, au début, ça n'a pas été terrible, et puis ensuite, vous allez voir. Et dès qu'ils ont suffisamment d'argent en levée de fonds, on se barre avec la caisse, on vous laisse vous démerder. C'est quoi la clé de tout ça ? Que ce soit les salariés ubérisés des plateformes, que ce soit les salariés de ce type de boîte, que ce soit les salariés du Franprix à côté, que ce soit les salariés d'une autre grande entreprise à côté, bah, la clé, c'est l'organisation des salariés, c'est le fait de raisonner collectivement. De ne pas se dire bah, « je vais essayer de trouver un meilleur poste ailleurs, je vais essayer de m'en sortir tout seul ». Non. C'est ensemble qu'on réussira toujours à faire des choses. C'est en essayant de rester collectif et d'obtenir des choses. Dans l'entreprise Zap, on a quand même un collectif de livreurs solide où les gens ne se trahissent pas entre eux. Il y a une vraie confiance. Voilà, on avance. Est-ce que beaucoup de salariés de ce type de boîte viendraient contacter un syndicat ? Ben, malheureusement, non, parce que ce n'est pas un réflexe aujourd'hui. Ce n'est pas un réflexe de contacter un syndicat. Là, ça s'est fait par relation de relation qui connaissait quelqu'un de tel sud qui le renvoie vers nous. Vous voyez ? Mais c'est par hasard, presque. Il y a combien de salariés qui sont concernés par ce genre de boîte ? Il y en avait 13 il y a un an. Aujourd'hui, on en a 10 de moins sur Paris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les autres, on ne les a pas vus. On n'a pas réussi à les toucher. Parce que ces dark stores aussi portent bien leur nom. C'est très planqué.
Les perspectives, quelles sont un peu les suites qui vont être données ?
Alors déjà, concernant Deliveroo, un appel a apparemment été fait. Appel a été fait par la boîte.
D'accord.
Ça ne nous dérange pas plus que ça. Déjà parce que les condamnations sont exécutoires, parce qu'il y aura quoi qu'il arrive une audience l'année prochaine, et parce que quand il y a un procès Deliveroo, il y a la question de l'ubérisation qui est remise là et qui remet la lumière sur ce système-là, qui remet une lumière sur ces périodes-là. Et ça crée de nouveau un débat, et on en reparle. Donc, ils veulent qu'on repose la question. Moi, je trouve qu'ils s'en sortent déjà bien.
Ouais.
Et encore, ah oui, pour éviter qu'ils se barrent avec la caisse chez Deliveroo, les pouvoirs publics ont quand même saisi 3 millions d'euros avant, pour être sûr qu'ils puissent payer un petit peu, quoi.
Bah oui.
Voilà. Et ces sommes-là sont allouées d'abord aux livreurs avant de payer les amendes. Ça fait partie du jugement.
Ouais, très bien. Ben écoute, Hichem, je te remercie de ces précisions parce que je pense que ça peut aussi donner pour peut-être des livreurs qui nous écoutent aussi des idées d'organisation.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur. Mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague. Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron ?
Protéger le climat, et pas le capital. Protéger le climat, et pas le capital. Protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat, et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.